Théologie fondamentale, Père Philippe, 9 avril 1984, Saint-Joseph.
S'y a-t-il entre vision, révélation, prophétie? C'est ce que nous cherchons. Donc, la révélation n'est-elle pas l'intelligibilité de la vision, la prophétie, l'expression de cette intelligibilité? La vision, ça dépend ce que vous appelez par vision. Moi, je vous vois, donc j'ai une vision. Alors, si vous dites vision béatifique, c'est autre chose. En vous voyant, je n'ai pas encore la vision béatifique. Je m'y oriente. Mais ce n'est pas encore la vision béatifique. Alors, vision au sens tout à fait ordinaire, c'est la connaissance par la vue. Et on dit que la connaissance intellectuelle implique une vision parce qu'elle nous fait saisir la lumière. La lumière prise d'un point de vue intelligible. Et c'est pour ça qu'il y a le lien entre le point de vue de la vision sensible et la vision intellectuelle. Et la vision béatifique, c'est l'ultime effort de l'intelligence transformé par la grâce et transformé par le Lumen Gloriae. Et le Lumen Gloriae qui vient surélever l'intelligence pour lui permettre de recevoir directement la lumière de Dieu qui vient déterminer l'intelligence. Dans sa lumière, nous verrons la lumière. C'est-à-dire, en Dieu, nous verrons Dieu. Et c'est Dieu qui vient déterminer mon intelligence et qui permet à mon intelligence, alors à ce moment-là, de saisir Dieu de l'intérieur. Voilà la vision. Rien n'est égal à la vision béatifique. La révélation, nous l'avons vu depuis le début, c'est une lumière surajoutée à ma lumière naturelle, à ma vision naturelle, à tout ce que je peux connaître naturellement. Je parle de révélation quand justement il y a quelque chose que normalement je ne peux pas saisir par moi-même. Et donc il y a quelqu'un qui vient me révéler cela. Je peux vous faire une petite révélation. Je peux vous faire une petite révélation. Quand j'ai été dans un endroit où vous n'avez pas été, quand j'ai assisté à un fait extraordinaire que vous n'avez pas assisté, je peux vous révéler cela. Donc je fais une petite révélation à ce moment-là. Mais c'est une révélation tout simplement d'homme à homme. Parce que vous auriez pu être avec moi. Vous n'y avez pas été, vous auriez pu être avec moi. Tandis que quand un ange me révèle quelque chose, c'est plus difficile parce que je ne pouvais pas être à côté de lui pour avoir la vision qu'il a eue. Et donc quand un ange me révèle, c'est déjà une révélation d'un degré supérieur parce qu'il me donne gratuitement quelque chose que je n'aurais pas normalement. Tandis que quand j'ai connu certaines choses que vous n'avez pas connues, en raison de l'âge, c'est qu'à partir d'un certain âge, on devient révélateur de tout un âge perdu. Et quand on vient le plus ancien de toute l'espèce humaine, voyez, si on vit jusqu'à 120 ans et que personne d'autre, on peut révéler à l'espèce humaine quelque chose que l'espèce humaine n'a pas connu. Et c'est pour ça que les vieillards deviennent révélateurs de certaines choses. N'est-ce pas ? Ça fait partie de ce charisme particulier d'avoir vécu plus longtemps que les autres. Quand on a été dans tel lieu, on peut révéler certaines choses. Mais c'est des révélations naturelles. La révélation angélique, c'est parce que l'ange a une intelligence supérieure à nous et qui connaît des choses que nous ne connaissons pas. Et la révélation divine, c'est parce que Dieu connaît des choses que nous ne connaissons pas et que nous ne pouvons pas connaître. Et il y a révélation quand Dieu nous révèle des choses qui relèvent directement de sa connaissance et que nous ne pouvons pas atteindre. Donc c'est Dieu qui me donne une nouvelle lumière. Et toute révélation, c'est une nouvelle lumière. Et la prophétie, c'est à l'intérieur de cette révélation, justement, ce fait que le prophète reçoit cette révélation et la communique aux autres. Donc c'est juste de dire l'expression de cette intelligibilité, je dirais tout simplement, qu'il communique la révélation qu'il a reçue, qu'il la communique aux autres. Le prophète, normalement, est celui qui parle. Je ne peux pas dire... Vous savez, c'est comme les stigmates intérieurs. J'ai les stigmates intérieurs, vous ne les voyez pas, parce que c'est beaucoup plus parfait de ne pas les montrer, n'est-ce pas ? C'est vous, savez, c'est tout intérieur. Alors, j'ai connu quelqu'un qui me disait ça très sérieusement. avec le plus grand sérieux possible. Je souriais intérieurement, sans le montrer, parce qu'il ne fallait surtout pas le montrer. Un stigmate. Ah, tiens, regarde. Ah non, ça ne se voit pas, c'est les stigmates intérieurs. Alors je pourrais dire, vous voyez, moi j'ai une révélation, mais je ne vous le dis pas, parce que c'est purement d'intérieur. Le prophète, et c'est un charisme, hein, nous l'avons vu au début, c'est un charisme, comme les stigmates, c'est un charisme. Donc c'est visible. Le charisme implique toujours quelque chose de visible, tandis que la révélation n'est pas nécessairement visible. Je peux avoir une révélation toute intérieure. Je peux très bien avoir une révélation toute intérieure. Dieu me révèle, par exemple, intérieurement, ce qui va arriver à la fin de l'année. J'ai eu cette révélation. Je ne sais pas très bien si c'est une révélation ou bien si c'est un rêve qui annonce quelque chose qui va venir, mais j'en suis absolument sûr, j'ai eu cette révélation. Je ne sais pas l'origine. L'origine peut être multiple. Donc vous voyez, la prophétie implique toujours une communication. Autrement, ce ne serait pas charismatique. Comme les stigmates impliquent toujours un élément visible. Toujours. Autrement, ce n'est pas les stigmates. Dites que vous vivez le mystère de la compassion, dans la foi, l'espérance et l'amour. Ah très bien, ça c'est intérieur. Mais les stigmates impliquent quelque chose de visible. Il ne faut pas abuser des mots. Hein. Les mots ont une signification propre. Bien, qui dit stigmate dit un aspect charismatique et visible. Qui dit prophétie dit quelque chose de charismatique, donc quelque chose de visible. Qui dit révélation dit intérieur avant tout. Toute révélation divine est d'abord intérieure. La foi me permet de recevoir la révélation de Dieu. C'est par la foi que je reçois. Or, la foi est d'abord un acte intérieur. Et c'est par la foi que je reçois la révélation de Dieu. Et par la prophétie, je reçois la révélation de Dieu pour la communiquer aux autres. Et en tant que prophète, je la communique aux autres. Et je peux très bien être un prophète inférieur qui communique sans rien comprendre. Alors, j'ai un don de prophétie à ce moment-là très inférieur. Je sais pas, je vous communique ça, je ne sais pas du tout ce que je dis. Je parle en langue. Je ne sais pas ce que je dis. Mais vous, vous devez comprendre. Et si vous ne comprenez pas, voilà. Je ne vois pas très bien le charisme. Parce qu'il faut quand même quelqu'un qui le reçoit. Oui. Mais je peux très bien communiquer quelque chose que je ne comprends pas du tout. Ça peut arriver. C'est un prophète, alors une prophétie inférieure. Ça. La prophétie parfaite, c'est quand moi-même, le prophète lui-même comprend. Bon, alors voyons le mode de connaissance prophétique. Vous voyez, là, nous entrons dans quelque chose de très intéressant. Alors, on était à l'article 2, mais je vais le reprendre parce que ça fait ancien. Dans la révélation prophétique, Dieu imprime-t-il dans l'esprit du prophète de nouvelles images ou des idées des choses ou seulement une nouvelle lumière? C'est très intéressant de bien voir les interrogations qui se posent ici. Dans tout acte de connaissance, dans tout acte de connaissance qui se réalise d'une façon humaine, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une lumière. Il y a une espèce. Ce que tu as, c'est une espèce. Une idée, c'est un verbe, un concept. Une species, un species expressant, un terme technique en scolastique, la species expressant, c'est le concept, c'est le verbe, ou alors on dira l'idée, après les cartes. Et puis, il y a une image. Dans toute connaissance humaine, vous pouvez distinguer la lumière, le concept, je ne peux jamais connaître quelque chose, intellectuellement parlant, sans qu'il y ait ces trois. La lumière, elle est intérieure. Et cette lumière, elle provient de l'intellect agent. Une lumière qui illumine intérieurement. Il y a la forme intentionnelle. Cette forme intentionnelle, elle s'achève dans le concept, dans le verbe, ce qu'on appellera ensuite l'idée, et ce que la scolastique appelait la species expressa. Donc, il y a un concept, je pense. Et toute pensée s'appuie matériellement sur une image. Je me sers toujours d'une image. Vous ne pouvez jamais avoir une pensée pure sans image. C'est toujours une image. Et c'est très intéressant parce que l'image est liée au corps. Et vous pouvez donc, par un sérum particulier, par une piqûre particulière, agir sur l'image et empêcher la pensée. Si ma pensée était purement spirituelle, personne ne pourrait agir dessus. Mais comme toutes mes pensées sont liées à l'image et que l'image implique nécessairement le corps et un organe biologique, je peux agir sur cet organe biologique, l'endormir complètement, le paralyser. Et à ce moment-là, je ne peux plus penser. Alors c'est pour ça que les gens diront, vous voyez bien que l'intelligence implique quelque chose de sensible, puisque je peux agir dessus. Vous n'agissez pas dessus. Comme je vous disais ce matin, on n'agit pas sur l'âme, on agit sur le corps. En agissant sur le corps, on agit sur l'âme, puisque le corps est vivant et que le corps est lié à l'âme. Alors, indirectement par le corps, vous agissez sur l'âme, ça c'est sûr. Mais vous n'agissez pas directement sur l'âme. Vous agissez directement sur le corps sensible, sur l'organe biologique qui est lié à l'exercice de la pensée, il est lié à l'exercice, au niveau de l'exercice, hein, comprenons bien. Le lien est au niveau de l'exercice. Et non pas de la spécification. Comprenez bien la différence. Hein. Au niveau de l'exercice, je ne peux pas penser sans qu'il y ait un support imaginatif. Même quand vous êtes dans la septième demeure. Un support imaginatif. Toujours. C'est pour ça qu'on peut intervenir d'une manière telle qu'on empêche l'exercice de la foi. Puisque la foi présuppose toujours l'exercice de l'intelligence et que l'exercice de l'intelligence présuppose. Les vertus dialogales ne sont pas dans leur exercice, ne sont pas libres du corps. Elles, dans leur exercice, elles sont liées au corps. Donc elles impliquent toujours une image. Mais pas au niveau de la spécification. La spécification du concept, spécifie le concept, c'est-à-dire le contenu intelligible du concept, est au-delà de l'image. L'image ne spécifie pas, mais elle a un support au niveau de l'exercice. Et ça, il faut bien distinguer les deux. J'espère que vous comprenez. Le contenu spécificateur de la pensée, du verbe, est au-delà de l'image. Ce n'est pas l'image qui détermine mon concept. Mais l'exercice de mon concept est lié à l'image. La problématique dans une philosophie, par exemple dans la perspective de la phénoménologie, où on ne fait plus la distinction entre l'exercice et la spécification. Alors vous voyez le résultat, c'est que je ne peux plus saisir l'esprit, puisque du côté de l'exercice, il n'y a pas d'exercice de l'activité intellectuelle. L'activité intellectuelle dans son exercice est toujours liée à l'image. Tandis tandis qu'au contraire, l'activité intellectuelle, dans sa spécification, n'est pas liée à l'image. Mais pour découvrir la spécification de l'activité intellectuelle, il faut analyser. Il ne faut pas simplement décrire. La description, c'est toujours lié du côté de l'exercice. Tandis que l'analyse, elle permet de découvrir la cause formelle. Qu'est-ce qui spécifie de la cause formelle? Donc je saisis la spécification. Et en saisissant la spécification, je saisis ce qu'il y a de propre à la connaissance intellectuelle, dans mon concept. Alors il faudrait se demander si dans la philosophie hegélienne, la séparation entre l'exercice et l'exercice. C'est de l'exercice que je vais inférer la spécification. Alors que pour nous, non. Ce sont des petites clés, ça, qui sont très importantes une fois qu'on a compris ça. On a compris, on peut là voir tout de suite à quel niveau on en est. Est-ce qu'on est à un niveau de l'analyse avec la spécification ou est-ce qu'on est au niveau simplement descriptif de l'exercice? Mais toute ma vie intellectuelle, dans son exercice, il y a des vieilles images, comme ça, Thomas, il donne des exemples toujours les mêmes, hein, pour ne pas se fatiguer. Pour ne pas se fatiguer, puis ils sont rodés, ces images. On ne tient pas compte. Il vaut mieux, parce que si vous avez des images trop étincelantes, vous avez des images étincelantes pour la rhétorique. Quand il s'agit de réveiller quelqu'un, vous avez des images étincelantes. Mais pour vous, dans votre travail intellectuel, vaut mieux. Il y a des images bien familier à ça. Alors, vous voyez la question, hein, une fois que vous avez compris ça. Vous voyez la question. La question consiste à voir, dans la révélation prophétique, Dieu imprime-t-il dans l'esprit du prophète de nouvelles images ou idées des choses ou seulement une nouvelle lumière? Alors, voici la réponse de saint Thomas, nous l'avions déjà lue et je la reprends. Le sept contrat. Le Seigneur dit dans Osée, je leur ai multiplié les visions et grâce aux prophètes, on a connu ma ressemblance. Très beau. Je leur ai multiplié les visions et grâce aux prophètes, on a reconnu ma ressemblance. Or, la multiplication des visions ne se fait pas seulement, ne se fait pas selon la lumière intelligible, qui est commune à toutes les visions prophétiques, mais seulement par la diversité des images et des idées, selon lesquelles se fait aussi la ressemblance. Il semble donc que dans la vision prophétique sont imprimées de nouvelles images ou idées des réalités, et non pas seulement une lumière intelligible. Alors, voici le corps de l'article. D'après saint Augustin, la connaissance prophétique a surtout pour siège l'esprit. Donc, cognitio prophetica maxime ad mentem pertinent. Donc, la connaissance prophétique a surtout pour siège, pour lieu où elle s'exerce, l'esprit. Or, au sujet de la connaissance de l'esprit humain, il y a deux choses à considérer. Vous voyez tout à fait l'analyse que fait saint Thomas. Ça, il faut suivre pas à pas pour bien comprendre. Or, au sujet de la connaissance de l'esprit humain, il y a deux choses à considérer. Le mode de réception ou de représentation des réalités et le jugement sur les réalités représentées. Alors, acceptionnem sive representationem reum et judicium de rebus presentatis. C'est très amusant comme distinction. Donc, l'acceptation, saint Thomas dira ordinairement, voyez, l'appréhension et le jugement. Alors, est-ce qu'ici, c'est la même chose? La distinction classique de saint Thomas, hein, classique. Un frère avait fait comme mémoire de licence la distinction de la et du jugement de saint Thomas. Bien, c'est une distinction très classique, ça. C'est important. On dira ordinairement première opération, deuxième opération. Nous verrons à propos de la philosophie du vivant. La première opération saisit ceci, et la seconde opération de jugement saisit le verbe. Être. Le verbe est saisi toujours dans le jugement. Et la première opération saisit au contraire les déterminations, c'est l'appréhension. C'est ça qu'on appelle l'appréhension. Alors voyez qu'ici, saint Thomas met une distinction un peu différente. Il nous dit ceci. Circum cognitionem autem humani mentis duo opportet considerare. Il faut considérer deux choses, c'est-à-dire exceptionnel. L'exception. L'exception. Appréhension, exception. Alors est-ce que c'est la même chose? Donc, exception, sine représentation. Représentation. Représentation, acception, appréhension. C'est amusant. Et ensuite, Yudichuba. Donc, si le second terme est le même, il y a des chances que nous soyons en face d'une division qui soit correspondante. Mais voyez, d'habitude, on dit appréhension pour exprimer le mode particulier de connaître. Quand je dis acception, j'exprime une attitude fondamentale de l'intelligence qui reçoit. C'est l'intelligence capable de recevoir. Aristote dira hypolepsis. Vous voyez, vous retrouvez l'hypolepsis d'Aristote. Aristote considère que l'hypolepsie, c'est la première opération de l'intelligence. L'acception. Hypolepsis, recevoir. Ce qui permet d'en recevoir. Bouche bée, alors ce. On vous l'envoie. Alors c'est bouche bée. C'est l'intelligence qui est bouche bée. C'est l'intelligence qui est avide. C'est l'intelligence qui veut recevoir. Elle reçoit. Elle est dans une attitude de réceptivité. Et cette attitude de réceptivité est l'attitude fondamentale de l'intelligence. L'intelligence est capable de recevoir. Elle reçoit. C'est très rare que simplement on reçoive. Mais c'est intéressant. C'est intéressant de voir ce lieu. Donc il y a deux choses à voir dans l'intelligence. Deux choses. Le point de vue de la réceptivité et le point de vue du jugement. Les réalités sont représentées à l'esprit humain par des idées, les species, disons pas idées, hein, disons des species, entre guillemets, c'est-à-dire des formes intelligibles, des formes intentionnelles. J'aime mieux dire ça, j'aime mieux traduire species par forme intentionnelle que par idée. Parce que le mot idée dira quelque chose de tout à fait différent. Alors il vaut mieux pas. Donc les réalités sont représentées à l'esprit humain par des species, des formes intentionnelles. Normalement, il est nécessaire que ces species, que ces formes intentionnelles passent par les sens, puis par l'imagination et aboutissent à l'intellect possible. Alors voyez que ce que dit saint Thomas. Secundum ordinem naturae. On a traduit normalement. C'est tombé dans de la vaseline. Parce que le normalement, c'est pas ça du tout l'ordre de la nature. C'est ça qu'il faut arriver petit à petit à être sensible. Alors comme ça, on est obligé de lire saint Thomas dans le texte. Parce qu'on s'aperçoit que toute traduction, sauf la traduction du commentaire de l'évangile de saint Jean, tu vois, mais toute traduction, autrement, fausse un peu. Tu vois, c'est pas vrai de dire normalement. Le normalement ne veut pas dire selon l'ordre de la nature. Alors, il est né, selon l'ordre de la nature, il est nécessaire, c'est très important ça, ce que saint Thomas souligne ici. Donc, et selon l'ordre de la nature, primo opportet, il faut d'abord que la species presentantur sensui, secondo imaginationis, tertio intellectus possibili, qui immutatur aspeciebus fantasmatum secundum illustrationem intellectus agentis. Alors là, vous voyez, c'est tout y est ici. Et c'est résumé, hein, c'est résumé de façon étonnante. Donc, représenter à l'esprit humain certaines réalités selon certaines. Les réalités sont représentées à l'esprit humain selon certaines formes intentionnelles, certaines formes intelligibles. Et selon l'ordre de nature, cette species est présentée d'abord au sens, puis à l'imagination, et troisièmement à l'intellect possible, qui est changé, qui est transformé par les species des fantasmes, selon l'illustration de l'intellect agent. Vous voyez ce que saint Thomas veut dire ici. Saint Thomas résume comment ces species, ces concepts, ces formes intentionnelles arrivent dans l'intelligence. Donc, comment y a-t-il une représentation intime de ces idées, de ces species, de ce concept? Comment notre intelligence arrive-t-elle au premier moment de la signification? Eh bien, saint Thomas dit que la signification, elle provient des sens, elle est ensuite dans l'imaginaire, elle est ensuite dans l'intelligence. Il y a toujours les trois passages. Les sens, l'imagination, l'intelligence passive. Les sens réunissent directement à la réalité. Je suis uni directement à la réalité. Les sens continuent leurs travaux dans l'imagination et l'imagination va permettre d'extraire de l'imagination des species intentionnelles. Sous l'action de l'intellect agent. L'intellect agent illumine les images et de cette illumination sort la species, les formes intentionnelles qui viennent déterminer l'intellect possible. Saint Thomas montre ça très rapidement. On va le développer ça en philosophie du vivant. C'est intéressant de retrouver ça ici, saint Thomas. Vous voyez, le petit chêne que donne saint Thomas. C'est pour ça que saint Thomas dit tout ce qui pénètre dans l'intelligence provient des sens. Certains sont fourrés comme ça. Tout ce qui est pénètre dans l'intelligence, donc dans l'intelligence possible, sous l'influence de l'intellect agent, provient des sens. Et les sens sont ça qu'on appelle le réalisme de saint Thomas. C'est que toute forme intentionnelle passe par la sensibilité. Tandis que d'autres qui sont dans la perspective de l'illuminisme disent que certaines formes intentionnelles sont données directement par Dieu. Saint Bonaventure. C'est la grande différence entre saint Bonaventure et saint Thomas. Saint Bonaventure est tout le courant néoplatonicien. Tout le courant néoplatonicien qui montre que nous avons une autre source de connaissance qui ne vient pas des sens. C'est directement Dieu qui agit. Nous dirons, Dieu peut toujours agir directement. Alors c'est la révélation. Ce n'est pas naturel. Parce que Dieu a voulu unir le corps à l'âme pour le progrès de l'âme. Et non pas pour le progrès du corps. Et donc pour le progrès de l'âme, c'est-à-dire que l'âme va puiser son bien par les sens, elle sera unie à la réalité. Par les sens, elle va faire manœuvrer l'imagination. Et par l'imagination, il va se produire sous l'emprise de la tête agente. Il va se produire cette forme intentionnelle. Bon, je continue. Or, l'imagination ne fait que recevoir les formes des choses sensibles, telles qu'elles viennent des sens. Mais elle subit aussi diverses transformations, soit par suite de modifications corporelles, comme il arrive dans le sommeil ou la folie, soit par suite, vous voyez, mais en parallèle, ça revient au même, hein, sommeil ou folie, les petites transformations que font les sensations, que font l'imagination. C'est évident que vous êtes un peu fou quand vous dormez. C'est la folie de tous les jours. C'est une folie mesurée. Heureusement, elle est mesurée. Parce que je m'endors tel soir, à telle heure le soir, je me réveille. Pendant ce temps-là, il y a une petite folie. Il y a un repos, une détente. Il ne faut jamais s'approcher trop de près de quelqu'un qui dort. On ne sait jamais son sommeil ou la folie. Il arrive dans le sommeil ou la folie, soit par suite d'une intervention de la raison qui dispose des fantasmes en vue de ce qu'il faut comprendre. Quand en effet, on change l'ordre des mêmes lettres d'un mot, le sens diffère. De même aussi, si l'on dispose les diverses manières des fantasmes, il résulte dans l'intelligence des idées intelligibles différentes. Vous voyez ce que je vous avais déjà dit, qu'entre la sensation et l'image, il y avait une différence d'ordre entre les sensibles communs et les sensibles pas. Ça ne me le souligne pas, mais il y a un changement ici. L'ordre des sensations n'est pas l'ordre des images. Et ça, c'est très intéressant et c'est très important. L'ordre des sensations n'est pas l'ordre de l'image, et l'ordre de l'intelligence reprend l'ordre des sensations. Oui, on saute un intermédiaire. L'imagination, c'est quelque chose de très spécial. Pas trop la critiquer, mais c'est très spécial, l'imagination. Parce qu'elle inverse tout. Pas du tout un décalque des sensations, c'est quelque chose de nouveau. Et l'intelligence est suffisamment intelligente pour retrouver l'ordre des sens à travers l'imagination. Si l'intelligence dépasse la sensation, dépasse l'imagination. Si l'intelligence reste rivée à l'imagination, l'intelligence va continue. Ça, c'est facile à comprendre, il n'y a pas de gros problème là-dessus. Mais c'est toute la critique qui est présente. C'est un article tout à fait intéressant, enfin, là, parce que c'est une synthèse. Quand en effet on change l'ordre des mêmes lettres d'un mot, le sens diffère. De même aussi, si l'on dispose de diverses manières les fantasmes, il résulte dans l'intelligence des idées intelligibles différentes. Quant au jugement de l'esprit humain sur ces représentations, il dépend de la force de la lumière intellectuelle qui les éclaire. Or, tout ça, présupposé philosophique. Or, par le don de prophétie, l'esprit humain est surélevé au-dessus de ses facultés naturelles. Quant aux deux éléments qu'on vient de dire, d'abord quant au jugement, par l'influx d'une lumière intellectuelle. Ensuite, quant à la réception des réalités, qui se fait par les images ou les species, ou les idées. Sur ce second point, sur ce second rapport, donc, vous voyez bien, par l'influx d'une lumière intellectuelle, ensuite, quant à la représentation des idées, qui se fait par les images ou les species. Sous ce second rapport seulement, on peut comparer l'enseignement humain à la révélation prophétique. Alors, on va faire une analogie entre la révélation prophétique et l'enseignement humain. Comprenez bien. C'est pas tout à fait la même chose. Le maître, en effet, présente à son disciple les réalités au moyen du langage. Mais il ne peut l'illuminer intérieurement. Ce que je vous avais dit, ce vieux professeur qui disait toujours « Je peux bien vous donner l'intelligible, mais pas l'intelligence. » Alors, je vous donne un intelligible le mieux possible, le plus simple possible. C'est là où vous verrez la qualité d'un maître. Parce que si vous donnez un intelligible qui est une mayonnaise mal digérée, difficile à recevoir. Un cataplasme, c'est difficile à recevoir. Alors, ça vous étouffe plutôt que le reste, comme je ne peux pas vous donner l'intelligence. Alors, il faut donner un intelligible le plus simple possible, le plus lumineux possible, le plus ordonné possible. C'est tout l'art de l'enseignement. C'est un art. C'est tout l'art de l'enseignement. Il ne suffit pas de connaître pour transmettre. Il faut connaître pour pouvoir transmettre. Mais la transmission se fait autrement que la connaissance. Il y a un art. Alors, vous voyez bien ce que dit saint Thomas. Le maître, en effet, présente à son disciple les réalités au moyen du langage. Mais il ne peut illuminer intérieurement comme Dieu le fait. Or, dans la prophétie, c'est la surélévation du jugement qui est la plus importante. Car c'est dans le jugement que s'achève la connaissance. Voilà pourquoi, si quelqu'un est gratifié par Dieu de la vision de certaines réalités à l'aide de similitudes imaginatives, tel le Pharaon et Nabucodonosor, ou encore à l'aide de similitudes corporelles, comme Balthazar, il ne faut pas le considérer comme un prophète, à moins que son esprit n'ait reçu une lumière qui le rende capable de porter un jugement. Tant que vous n'avez pas porté de jugement, mais vous n'êtes pas prophète. Vous voyez le langage en langue. Ben, c'est très très net, hein. C'est très important de voir ça. Vous pouvez assembler des choses extraordinaires, mais si vous n'avez pas l'intelligibilité de la chose, vous n'êtes pas prophète. Voilà pourquoi, si quelqu'un est gratifié par Dieu de la vision de certaines réalités à l'aide de similitudes imaginatives, tel le Pharaon et Nabucodonosor, ou en effet, ou encore à l'aide de similitudes corporelles, comme Balthazar, il ne faut pas le considérer comme un prophète, à moins que son esprit n'ait reçu une lumière qui le rende capable de porter un jugement. Cette vision sans jugement est une espèce imparfaite dans l'ordre de la prophétie. Aussi, certains l'appellent-ils un succès d'année de la prophétie. Très bien, succès d'année. Une reçue, c'est casus prophétier. C'est le casus prophétier. Un succès d'année de la prophétie. Comme l'est la divination des songes. Par contre, on désignera comme prophète celui dont l'intelligence seule aura été éclairée pour juger même ce que d'autres ont vu imaginativement. Ainsi, Joseph, qui expliqua le songe du Pharaon, toutefois, comme le remarque saint Augustin, celui-là surtout mérite le nom de prophète, qui excelle en l'une et l'autre genre, voire en esprit les similitudes désignant les réalités corporelles, et en même temps les comprendre par la vivacité de son esprit. Donc vous voyez, c'est très net, hein. Le prophète n'est prophète que quand il a la lumière qui atteint le jugement. Le prophète qui n'atteint que le point de vue de la représentation ou l'acception des spécies n'est pas prophète. S'il ne sait pas interpréter. Donc, le langage en langue n'est pas d'ordre prophétique. Si, ça vient du Saint-Esprit. Je mets aussi, je mets ça. Voici de quelle manière les réalités sont manifestées par Dieu à l'esprit des prophètes. Tantôt, c'est par l'intermédiaire des sens extérieurs, au moyen de formes sensibles. Par exemple, Daniel vit des inscriptions sur la muraille. Tantôt, c'est au moyen de formes imaginatives, soit que Dieu les imprime directement, sans qu'elles soient reçues par les sens, tel serait le cas d'un aveugle né, dans l'imagination duquel s'imprimeraient des images, des couleurs, soit aussi que Dieu arrange de façon spéciale des formes sensibles, des formes reçues par les sens. Tel le cas de Jérémie qui vit bouillir une chaudière venant du septentrion. Très belle prophétie. Tantôt, enfin, c'est au moyen d'idées imprimées dans l'esprit du prophète, donc de spécies imprimées dans l'esprit du prophète, c'est le cas de ceux qui reçoivent la science ou la sagesse infuse, comme Salomon et les apôtres. Interpréter l'écriture peut être prophétique. Interpréter l'écriture, c'est ce que dit saint Thomas ici. Quant à la lumière intelligible, elle est donnée par Dieu à l'esprit humain, soit pour juger ce qui a été vu par d'autres. On l'a remarqué pour Joseph, il en est de même des apôtres, auxquels le Seigneur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. C'est là l'objet de l'interprétation des discours, soit pour juger selon la vérité divine ce que l'homme saisit dans ses facultés naturelles, soit enfin pour juger d'une autre manière vraie et efficace ce qui est à faire selon cette parole d'Isaïe, l'Esprit du Seigneur a été sondé. Il ressort donc de cet exposé que la révélation prophétique se fait quelquefois par le seul influx de la lumière, d'autres fois par l'impression de nouvelles images ou idées, ou encore par des combinaisons spéciales d'images ou d'idées antérieurement acceptées, acquises. Donc vous voyez que cette synthèse est très nette. Vous voyez que l'influx prophétique est parfaitement lui-même sur la lumière, qui influe sur le concept, sur le jugement, et qui demande par le fait même de s'appuyer sur les images, il peut très bien ne pas y avoir d'image, et qui se dit, et qui se communique. Donc, quand vous parlez de la connaissance prophétique, parlez de la lumière, parlez du concept et du jugement, parlez de l'image, parlez de la communication. Alors là, vous avez les différents moments et vous pouvez préciser. Donc, c'est très bon comme analyse. C'est une analyse qui est assez intéressante parce qu'elle est assez synthétique. Elle synthétise bien et elle montre bien comment je ne peux pas parler de la prophétie sans parler de tous ces moments. Je peux m'arrêter. Je peux dire qu'il y a quelqu'un qui a une nouvelle espèce, une nouvelle spécies, une nouvelle branche. J'ai eu un rêve. Ce rêve est-il prophétique, n'est-il pas prophétique? Je le dis au Père Mère. Quand même, j'ai rêvé que la maison est rénovée ce soir. C'est un rêve prophétique. Je me précipite dès que je peux le dire. Je le dis au moins. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, à ce moment-là, on mettra toute la communauté en prière pour interpréter. On va l'interprétation juste, n'est-ce pas ? L'interprétation juste, pas cesser d'effrayer dans ça. Quand on reçoit une révélation d'enfants qui voient la Sainte Vierge, il y a l'interprétation. Quand la Très Sainte Vierge demande de construire une croix qui soit de hauteur telle qu'elle atteigne, est-ce que c'est symbolique ou est-ce que c'est réel ? C'est toute l'interprétation, c'est là la très grosse difficulté. Parce qu'il y a un langage symbolique, toujours prophétique, toujours symbolique. Si je prenais l'Apocalypse voyez, littéralement, j'en deviendrais fou. Seulement fou. Vous l'interprétez symboliquement, parce que toujours les nouvelles qui doivent arriver, c'est symbolique. Alors l'interpréter matériellement, c'est contraire à l'esprit prophétique. Donc il faut bien saisir ces différents moments de ce que représente le point de vue du lumen prophétique. On verra les objections la fois prochaine. Mais c'est ça le principal, c'est le corps de l'article.